Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Benoît Schmitz. Benoît, bonjour.
Bonjour Christophe.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes agrégé normalien, que vous travaillez sur l'histoire de l'Église et plus spécifiquement sur le pouvoir pontifical au XVIe siècle. Alors vous êtes venu nous présenter, Benoît, un autre intellectuel catholique, un catholique du XIXe siècle. Il s'agit d'un personnage, j'allais dire, un peu d'actualité, puisqu'il a été béatifié par le pape Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris le 22 août 1997. Il s'agit de Frédéric Ozanam. On associe généralement Frédéric Ozanam à un catholicisme social. Et là, vous êtes venu nous présenter l'intellectuel.
Oui, tout à fait, parce que on a surtout retenu de lui qu'il était le fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul et qu'il avait été un des précurseurs, un des grands précurseurs du catholicisme social, non pas tellement par la doctrine, mais en tout cas par la charité qu'il avait pu mettre en œuvre. Et c'est effectivement un aspect essentiel et très important, mais il ne faudrait pas occulter pour cela son engagement intellectuel. Alors, parfois, on en a retenu l'épisode de la révolution de 1848, où Frédéric Ozanam s'est engagé aux côtés du journal L'Ère Nouvelle, dans les catholiques qui étaient favorables à la démocratie. C'est aussi un point important. On a retenu notamment son célèbre « Passons aux barbares », et on oublie souvent qu'il ajoutait « Et suivons Pie IX », parce que Pie IX, à l'époque, était une figure du monde libéral, ce qui paraît étonnant par l'image qu'on en a gardée ensuite. Mais toujours est-il que tout cela ne peut pas masquer le fait que la grande idée qui a dominé sa vie, c'est celle d'une reconquête intellectuelle, de l'idée que l'universitaire qu'il était, le professeur qu'il était, devait servir la vérité catholique et devait la proposer à ses contemporains.
Alors nous allons le voir, il offre une réflexion notamment sur l'histoire chrétienne. Mais avant tout, quelles sont ses origines ?
Eh bien, Frédéric Ozanam est né à Milan en 1813 parce que son père, qui était médecin, y était à l'époque. Mais la famille va très vite s'établir à Lyon où il va grandir. Sa jeunesse est quand même marquée par un engagement très précoce au sein du mouvement intellectuel catholique. On sait par un certain nombre de lettres qu'il a connu une crise de foi au moment de son année de rhétorique, qui a été ensuite dissipée grâce notamment à un prêtre qui s'appelait l'abbé Noirot, qui a été son professeur de philosophie et qui a raffermi en lui la vérité catholique, dont il explique qu'il avait commencé à douter à cause des attaques nombreuses dont elle était l'objet. Il faut, je crois, vraiment se replacer dans le climat de l'époque, qui était un climat quand même très, très déchristianisé, ou en tout cas, le catholicisme ne semblait pas toujours avoir de place dans le monde intellectuel. Lui va, au contraire, essayer de développer une pensée catholique, et il s'inspire pour cela du traditionalisme catholique, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a une révélation primitive qu'on retrouve dans toutes les religions, dans tous les systèmes de pensée, et que tout cela finalement converge dans la doctrine qu'enseigne l'Église. Il avait à ce sujet un grand projet de démonstration apologétique qu'il expose dans une lettre à deux de ses amis. L'un de ses amis, d'ailleurs, était Hippolyte Fourtoul, qui deviendra ministre de l'instruction publique de Napoléon III un petit peu plus tard. Et il disait à ses deux amis qu'il voulait écrire, qu'il devait écrire un livre qu'il n'envisageait pas quand même de sortir avant 35 ans, mais que d'ici là, il fallait qu'il se mette à des travaux parce qu'il devait apprendre toute une série de langues pour pouvoir mener à bien son projet, pour pouvoir étudier toutes les coutumes, toutes les religions. Et on a vraiment un programme de travail tout à fait impressionnant pour un jeune homme
qui n'a que 18 ans.
Qui a à peine 18 ans. Il s'agissait vraiment de faire une sorte d'histoire universelle qui déboucherait fait sur une apologétique parfaite. Enfin, mais il y a c'est un programme qui, à la limite, vous voyez, recouvre un peu ce que va faire ensuite Georges Dumézil, enfin, sur des études comparées de mythologie. Enfin, c'est un projet tout à fait démesuré qui ne mènera pas à bien.
Parce que nous le verrons, il meurt assez jeune. Alors, c'est un garçon obéissant parce que son père veut qu'il fasse des études de droit et lui, il tient absolument à ses études de lettres hein, dans cet état d'esprit et il mène les deux.
Oui, il va mener les deux de front en expliquant à son père que, bon, il poursuit ses études de droit, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup plus d'attrait pour les lettres. Cela le conduira en fait à obtenir un doctorat en droit en 1836 et ensuite un doctorat en lettres sur Dante en 1839. Donc il a mené ça de front dans une vie parisienne fort occupée parce qu'il s'est intégré aussi à tous les mouvements intellectuels catholiques qui pouvaient exister à l'époque. Alors il a fréquenté le salon de Montalembert, mais il a aussi créé avec d'autres amis des conférences d'histoire. Il s'agissait de petits cercles où on se réunissait pour débattre avec d'autres jeunes gens, notamment des Saint-Simoniens, et donc s'exercer aussi un certain art de l'apologétique. C'est de là d'ailleurs que naîtra la Société de Saint-Vincent de Paul, Ozanam même ayant finalement dans l'idée que cet engagement intellectuel devait avoir un prolongement dans la charité. Il tiendra toujours les deux aspects, ce qui fera dire à Lacordaire plus tard que Frédéric Ozanam avait incarné le double prosélytisme de l'intelligence et de la vertu.
Comment se place-t-il donc dans ce mouvement intellectuel catholique au XIXe siècle ?
Eh bien, Frédéric Ozanam va petit à petit s'y faire une place. Il est assez différent de finalement des grands maîtres qui ont dominé la période précédente, que ça soit Joseph de Metz, Chateaubriand, aussi récemment Ballanche. Lui, il va choisir une voie qui est plutôt celle du savoir positif ou de la science, c'est-à-dire plutôt que de développer simplement des intuitions ou des fulgurances d'écrivains, il va s'efforcer de faire une œuvre positive et de...
Il diffère vraiment en cela hein, de nos portraits précédents, par exemple du providentialiste de Maistre ou bien du pourfendeur Louis Veuillot.
Il en diffère, oui, il en diffère assez notamment de Louis Veuillot parce que sa grande idée va être de substituer à la polémique violente à laquelle, pour lui, les catholiques n'ont rien à gagner, une science ferme. Et c'est ce qu'il va s'efforcer de faire. Je crois qu'il faut aussi prendre en compte un événement considérable qui a été la chute de Lamennais au début des années 1830, où Lamennais est condamné par le Saint-Siège après en avoir été un des élateurs, avoir été un des apologètes les plus en vue. Lamennais va être condamné, mourra en dehors des sacrements de l'Église. Et chez Ozanam, il y a du coup une certaine méfiance vis-à-vis de ces grands génie ou de ses grandes figures, l'idée qu'il fallait revenir à un savoir positif plus ferme, plus correspondant plus d'ailleurs aux exigences universitaires, mais fidèle vraiment complètement à l'orthodoxie chrétienne. C'est d'ailleurs dans sa thèse, il consacre un chapitre à l'orthodoxie de Dante.
Alors il a des exigences universitaires, vous venez de le dire, et précisément c'est un professeur, ce qui parfois lui jouera des tours puisqu'il y aura cette fameuse querelle des universités.
Oui, il est rentré dans l'université, il a eu la chance de pouvoir enseigner les lettres après avoir commencé une carrière d'avocat. Ça correspondait vraiment à ce qu'il voulait faire et il va obtenir la suppléance après avoir été reçu premier à l'agrégation de littérature étrangère. Il va devenir le suppléant de Claude Fauriel, qui est le premier en France à faire de la littérature comparée. Et il va devenir son suppléant à la Sorbonne, mais il va se retrouver assez vite dans une position très délicate parce qu'au moment de la querelle sur le monopole universitaire, il va être attaqué indirectement par les catholiques qui lui reprochent de faire partie de ce corps qui a un monopole éhonté selon eux. Et inversement, il va être dans une situation très délicate vis-à-vis de ses confrères universitaires qui peuvent lui reprocher finalement d'être solidaire de catholiques qui attaquent l'université. Donc c'est une position très délicate où finalement il s'en sort, mais avec quand même parfois des attaques assez violentes menées contre lui. Cela lui vaudra d'ailleurs les foudres aussi de Louis Veuillot. Mais je crois qu'en fait on ne peut comprendre cet épisode-là que si on revient quand même à l'idée constante qui a été celle d'Ozanam, qui était de réconcilier la science et la foi. Et pour lui, ça ne pouvait se faire que dans l'université, que dans l'institution universitaire qui, lorsqu'elle laissait la parole aux catholiques, leur permettait de développer la vérité catholique.
C'est vraiment son originalité, un catholique dans l'université.
Oui, il y en avait quelques autres. D'ailleurs, fort souvent, ils étaient chahutés par les étudiants. Mais lui avait réussi quand même à gagner leur certaine affection. C'était un très grand professeur. Hein. Je crois qu'il faut aussi se replacer dans le contexte du temps où un cours, c'est avant tout un exercice d'éloquence, où vous dépensez une énergie assez considérable. D'ailleurs, certains s'inquiétaient quand même de la façon dont il s'investissait dans ses cours et pensant que ça allait atteindre sa santé. Mais c'est ce qui fait quand même sa singularité, l'idée vraiment qu'un universitaire catholique pouvait aussi bien servir la vérité catholique que un journaliste ou un écrivain en dehors d'institutions comme celle-là.
C'est un professeur qui a eu du succès ?
Oui, c'est un professeur qui a eu du succès, qui était respecté, qui va d'ailleurs ensuite être nommé. À la mort de Claude Fauriel, il prend son poste et il devient à ce titre-là vraiment le titulaire de la chaire de littérature étrangère à la Sorbonne. Il a su se faire respecter dans un contexte qui était difficile, qui n'était pas gagné d'avance. Il a su quand même, c'est aussi un habile manœuvrier, enfin, on le suit à travers sa correspondance, il a réussi quand même à concilier diverses exigences et il y a une habileté réelle chez lui pour voilà, obtenir aussi une certaine indépendance. La chaire de littérature étrangère, c'était le moyen aussi de se consacrer pleinement à ses travaux.
Que reste-t-il de son œuvre ?
Eh bien, il reste des traces assez importantes, non seulement une correspondance qui a fait l'objet d'une édition critique en 5 volumes, qu'on ne trouve peut-être pas facilement, sauf en bibliothèque, mais qui est très intéressante parce qu'il écrit fort bien et il y a vraiment de belles choses. Il reste aussi une œuvre qu'il a conçu dans les années 1840. Son grand projet, en fait, était de faire une histoire de la civilisation, des temps barbares, en fait, et de la chute de l'Empire romain, jusqu'au XIIIe siècle et jusqu'à Dante. Et c'est un projet qu'il va peu à peu définir et dans lequel vont venir s'enchasser une série de monographies, de travaux qu'il publiait à la suite de ses cours. Pour comprendre cette œuvre, je crois qu'il faut voir ce que pouvait être l'enseignement des littératures étrangères à la Sorbonne à cette époque-là. Il faut voir que le professeur de littérature étrangère enseignait toutes les littératures étrangères. Il n'était pas professeur d'italien ou professeur d'anglais, il enseignait aussi bien l'italien, l'anglais. Et donc ça va permettre aux Anam de se plonger dans la littérature italienne, mais aussi allemande avec les Nibelungen, mais aussi dans des sagas scandinaves, toute une série de textes qu'il va s'efforcer de relire et dans lesquels il voit le reflet d'une civilisation. Et c'est progressivement que son projet va prendre corps, notamment après un voyage en Italie, son voyage de noces en Italie en 1841, qui va raviver son sens historique, parce qu'il constate à travers les traces de l'Antiquité, eh bien, finalement, la vanité des civilisations humaines, à laquelle il oppose finalement la stabilité de la Rome éternelle, de la coupole de Saint-Pierre. Et là, son idée maîtresse va être définie à partir de ce moment-là. C'est le christianisme qui est le fondement de la civilisation. Il va approfondir cela à travers une étude prévue sur le Saint-Empire romain germanique, où il va s'efforcer de montrer ce que l'Allemagne doit au christianisme, à une époque où beaucoup d'Allemands commençaient à dire que le christianisme avait perverti le fondement originel de la germanité. Pour cela, il disposait évidemment de ressources importantes parce qu'il était juriste de formation. Il avait donc accès aussi à l'histoire du droit, à l'histoire des religions. Ça fait écho quand même à son traditionalisme, à ses premiers projets, et puis à l'histoire de la littérature étrangère. Et donc, il va combiner tout ça de façon assez moderne, en une œuvre historique qui déploie des sources assez variées pour faire cette grande histoire de la civilisation, qui est où il insiste sur le rôle bienfaisant du christianisme.
Il y a une préfiguration en quelque sorte des conflits futurs. Vous évoquiez l'Allemagne, où on pense au Kulturkampf dans le dernier quart du 19e siècle, mais aussi l'opposition entre tout le mouvement laïque et le mouvement catholique à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Il y a des échos très forts de l'actualité. Ça préfigure ce qui se passera ensuite, mais ça fait aussi directement référence à des événements contemporains. Il y avait eu une arrestation aussi en Allemagne d'un archevêque qui ne plaisait pas au pouvoir. Il y a eu l'affaire du Sonderbund en Suisse où les cantons catholiques ont tenté de se séparer des cantons protestants. Il y a eu une véritable guerre et où la Confédération helvétique finalement n'a pas respecté vraiment les droits des cantons catholiques. Donc il y a des enjeux d'actualité très forts. Mais l'idée d'Ozanam, c'est qu'il n'est bon à quelque chose que comme professeur et que comme étant capable de restituer le fait que le christianisme est le fondement de la civilisation européenne et que sans cela, eh bien, celle-ci va vers une certaine décadence.
Alors vous n'êtes pas forcément dans les petits papiers du Vatican, mais qu'est-ce qui a joué dans la béatification? C'est davantage le catholique social ou bien l'intellectuel?
Je crois que c'est le catholique social qui a été privilégié parce que c'est celui qui est le plus connu, mais l'œuvre... Enfin, le procès en béatification c'est une œuvre aussi historique, c'est-à-dire qu'il y a une recherche historique très sérieuse. On peut lire d'ailleurs, j'ai lu la disquisitio, qui est la défense qui a été présentée par donc l'avocat lors de ce procès de béatification. C'est une œuvre historique immense où tous les aspects sont examinés. Mais c'est vrai que ce qui est présenté avant tout en exemple, c'est surtout le catholique social. C'est peut-être dommage de ne pas insister davantage sur cette figure intellectuelle qui est un petit peu passée à la trappe, si vous passez l'expression.
Disons que Jean-Paul II lui a permis d'avoir une nouvelle actualité.
Oui, elle lui a permis d'avoir une nouvelle actualité. Je pense qu'il n'était pas aussi insensible à cette dimension d'intellectuel catholique, à laquelle, par exemple, un Léon XIII était assez sensible. Chez Léon XIII, l'idée de la civilisation chrétienne était présente chez Léon XIII et je crois qu'il avait lu certaines œuvres d'Ozanam, en tout cas qui connaissait un peu ce qu'avait fait Frédéric Ozanam.
Eh bien, merci beaucoup Benoît Schmitz. Je renvoie nos auditeurs alors à votre travail de maîtrise, puisque vous avez travaillé assez longtemps sur les écrits de Frédéric Ozanam, et à la biographie. Il y a plusieurs biographies, je n'en retiendrai qu'une seule, celle en tous les cas que vous préférez, celle de Gérard Cholvy, donc chez Fayard, Frédéric Ozanam, l'engagement d'un intellectuel catholique au XIXe siècle. Merci beaucoup Benoît, et à très bientôt pour un nouveau portrait d'un intellectuel catholique.